On est bien tous ensemble tous les matins du lundi au vendredi sur le 93.6. Ici c'est Radio Bulle, c'est votre radio de la jeunesse depuis 38 ans grâce à votre fidélité les amis. Merci à vous. Allez, le jeudi matin c'est Bulle de Truffe et c'est avec Bernard Rosa. Bonjour Bernard.
Bonjour Samia.
Tu vas bien ?
Toujours très bien.
Et tes truffes comment elles vont ?
Ben, elles se portent pas trop mal. On espère que le temps va nous permettre de récolter des truffes cet automne et puis surtout cet hiver.
Faut quoi comme conditions climatiques ?
En conditions climatiques, il faut du beau temps, il faut du mauvais temps, il faut de la pluie, il faut des orages.
Il faut que ça change un peu, quoi.
Il faut qu'il fasse froid, il faut qu'il fasse chaud. Donc, c'est un champignon très capricieux.
D'accord.
Voilà. Et j'allais dire comme les jolies femmes. Non, c'est pas vrai.
Et tout le monde fait des caprices dans la vie, mais voilà.
Voilà, et donc, il faut tous les temps. Quand un temps n'est pas favorable pour une saison de truffes, elle peut l'être aussi pour une saison supplémentaire, puisqu'on récolte de la truffe sur les quatre saisons,
ouais,
au printemps, en été, en automne, en hiver. Je ne cesserai de le répéter.
Donc là, sur l'automne, il faut du soleil et un temps un petit peu humide.
Alors, il faut un temps humide, mais il a fallu quand même apporter beaucoup d'eau cet été.
Ouais.
À cause de la chaleur.
T'as arrosé alors ?
Intense, énormément.
D'accord.
On a quasiment doublé l'arrosage par rapport à l'année précédente.
Waouh. D'accord, ok, ouais, parce que c'était sec hein, cet été. Bon, la semaine dernière, on parlait des comptes du marché. On a dit que voilà, c'était un business hein, qui se portait très très bien. La truffe, dans les années 1900, on en produisait énormément en France.
Exact.
Avec les deux guerres, première et deuxième guerre mondiale, forcément, les paysans sont partis, sont pas forcément revenus. Ils ont laissé leur savoir où il était. On a aussi...
les produits phytosanitaires qui nous ont pourri la terre.
Exactement. Il a fallu produire plus aussi après la guerre, donc on a déboisé. C'est ça, hein ?
Ouais, exactement aussi.
Ouais.
Oui.
Donc c'est autant de conditions qui font que la truffe a un petit peu décliné et que dans les années 60, on n'avait quasiment plus, c'est ça ?
Ben, on n'en trouvait plus sur les marchés. Le marché, c'était plus tiré vers des produits alimentaires traditionnels.
Ouais.
Et puis on a eu aussi les magasins et les supermarchés qui se sont installés. Donc à partir de là, on trouvait de la nourriture traditionnelle dans ces magasins, mais pas de la truffe.
Mais la bonne nouvelle, c'est que la truffe a fait son retour. Aujourd'hui, on va parler de la renaissance de ce beau produit.
Et oui, la renaissance, parce qu'effectivement, elle est revenue en odeur de sainteté sur notre territoire, grâce, je dirais, à quatre agriculteurs lot-et-garonnais qu'on a pris au départ pour des fous, des barzingues un peu.
D'accord. Ouais,
on peut dire ça à la radio.
Oui.
Voilà, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez remplacer la nature ? Vous voulez être plus fort que la nature ?
Ouais.
Mais ils ont persisté, ils se sont mis chacun dans leur coin. Ils ont monté d'abord une association, en 1987 exactement.
Ouais.
Et ils ont commencé de leur côté à faire leurs petits plans truffiers. Ils ont bricolé. Ils se sont informés, ils sont allés vers des chercheurs de l'INRA, du CNRS, ils se sont associés avec des gens qui étaient des pépiniéristes pour les arbres ou les plantes, peu importe lesquelles, et des gens qui se sont dit, tiens, pourquoi pas faire des plants truffiers. Donc voilà, tout ça s'est mélangé, c'était dans les années 80-90, et une fois que l'association a été montée, il y a des gens qui sont venus spontanément se joindre à eux, donc ils étaient quatre au départ, et on a commencé à planter, donc il y a tout juste 35 ans aujourd'hui, des truffières, donc parce que maintenant voilà, on plante des arbres pour avoir de la truffe, donc ce sont des truffières, et à partir des années 90, il a été créé quelques petits marchés, alors... on en parlera sur une autre émission, mais
ouais.
Preissas, Agen, Nérac, et ainsi de suite. Il y a plusieurs marchés sur le département du Lot-et-Garonne qui se sont montés, qui existent toujours, essentiellement pour la truffe d'hiver. Et cette truffe, elle a commencé à exister au fur et à mesure que l'évolution de la recherche des pépiniéristes et des trufficulteurs se sont mariés entre eux et ont commencé à échanger un tas d'informations sur ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, on va dire depuis les années 2000, on sait qu'on peut planter à coup sûr, on aura de la récolte, mais quand et combien, ça personne n'est capable de le dire. C'est-à-dire que si on fait un certain travail sur une truffière, on a la possibilité d'avoir une récolte. Alors, très important, pour ceux qui nous écoutent, il est important de planter sur un sol calcaire ou argilo-calcaire. La truffe, elle a besoin de calcaire. Ça, c'est primordial. Ce qui est aussi avantageux, c'est qu'en général, ce sont des terrains pauvres qui sont abandonnés par le milieu agricole et qui automatiquement deviennent valorisés l'agriculteur en plantant des arbres sur lesquels il va faire aucune culture.
Ouais.
Parce que ce sont des terrains pauvres. Donc il va y planter des chênes truffiers. Aujourd'hui, bien sûr, ce qu'on ne disait pas il y a 20 ans, mais il faut absolument avoir de l'eau.
Ouais.
Ça, c'est très important.
Il faut une source galinette.
Oui, il faut une source galinette, mais une grosse source. Et à partir du moment où on a de l'eau, on a un terrain qui est correct, on peut planter des arbres qui sont mycorhizés donc à la truffe. À la truffe qu'on aura choisie, bien évidemment, pas uniquement la truffe nord du Périgord. Et là, on va donc planter. Alors, on a commencé à planter dans les années 80. Dans les années 90, on s'est retrouvé avec un certain nombre de personnes qui ont planté. Alors, il y a eu un discours dans cette période-là qui était pas tout à fait juste, puisque je l'ai entendu, moi, de mes oreilles, et ça m'a fait sourire à cette époque-là, puisqu'on disait « planter, il n'y a rien à faire », parce qu'on imaginait que la nature allait tout faire.
Ouais, silence, ça pousse, quoi.
Voilà, silence, ça pousse. Ouais. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit « oh, c'est super, moi qui suis feignant comme une couleuvre, c'est un métier pour moi ». Non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Il y a énormément de travail, il y a un gros investissement. Il faut savoir qu'on ne fait pas une plantation pour laquelle on va récolter dans les mois qui vont venir, mais c'est plutôt dans les années.
Ouais.
Donc quand on plante, quand on a commencé à planter dans les années 80-90, beaucoup de trufficulteurs ont essuyé énormément de plâtre.
Parce qu'ils voulaient un rendement tout de suite.
Non, c'est parce qu'on avait on n'avait pas de savoir sur cette culture.
D'accord.
On découvrait.
Faut avoir du recul.
Faut avoir énormément de recul. Ouais. Et là, on n'a pas de recul à cette époque-là, aucun. Donc, on imagine, on essaye de regarder la nature et de refaire un peu la nature chez soi. Donc, on va entretenir tant bien que mal les truffières. On va essayer d'avoir quelques truffes. Vous plantez 300 arbres et puis vous avez 2-3 arbres qui produisent. C'est pas beaucoup, mais c'est un premier début. Mmh. Aujourd'hui, quand on est sur 300 arbres, on peut avoir, à 15 ans, on peut avoir aux alentours de 200 à 150 arbres qui produisent.
Ah ouais.
Mais la production d'un arbre, c'est pas linéaire. On va pas récolter 1 kilo par arbre.
Ouais.
On peut récolter une truffe. 2 truffes.
Oh là là,
un kilo de truffes, mais c'est rare.
C'est aléatoire en fait.
Alors c'est très aléatoire parce qu'il y a un élément aujourd'hui qu'on ne connaît pas,
ouais,
qui est essentiel pour toutes les cultures, et qu'en trufficulture on ne connaît pas, c'est comment naît une truffe.
Attends, vous savez toujours pas ça ?
Eh non.
Pourquoi ?
Et parce que la recherche aujourd'hui, elle travaille dessus, mais on est sous terre. Et quand on est sur un arbre pour un pommier, oh, un prunier, ou du maïs, ou
ouais,
ça, on sait le voir.
Non, mais tu veux dire qu'en 2022, on ne sait toujours pas. Non, mais moi, c'est vrai que je ne suis jamais allée jusque-là dans le raisonnement, mais moi, je pensais qu'on savait. En 2022, j'aurais cru quand même qu'on saurait comment naît une truffe. Là, on est toujours sur
dans
une
l'ignorance
notion,
la plus,
ouais,
totale. Alors, on fait des
wow,
on subodore.
Ouais.
Voilà, je voulais le sortir, celui-là.
Mais c'est bien, bravo. Ouais,
on subodore que, bon, nous, en tant que trufficulteurs, on a des pistes. Les chercheurs, ils considèrent que ces pistes-là, elles sont pas bonnes parce qu'il faut que ça soit bien réglé, il faut que, ouais, ça soit calculé, il faut que ça soit vérifié. Donc l'INRA cherche depuis une quarantaine d'années comment naît la truffe. Bon, ils sont des chercheurs, mais ils n'ont toujours pas trouvé.
Et au nez du trufficulteur, alors, c'est quoi ?
Alors, le nez du trufficulteur, c'est qu'on s'est adapté à ce qu'un certain nombre de trufficulteurs ont fait chez eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester chez soi quand on fait la trufficulture, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs.
Ouais.
En ce qui me concerne, ou en ce qui concerne les trufficulteurs du Lot-et-Garonne, puisque ayant fait partie de l'association, on a fait pas mal de voyages chez nos collègues trufficulteurs de l'est de la sud-est de la France, en Espagne, et on a vu que certaines actions qui étaient faites sur certaines truffières apportaient un peu plus de truffes. Donc,
d'accord.
Quand
comme
on
quoi
est, alors comme quoi, par exemple, un jour on est parti sur les Pyrénées-Orientales et on a vu un trufficulteur qui décompactait son terrain.
Ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire qu'on va aérer le sol avec, ouais, du matériel mécanique.
Ok, d'accord.
Voilà, donc on va soulever la terre de façon à avoir un sol qui soit plus aéré, alors au niveau racinaire, puisque bon, l'arbre, lui, va développer beaucoup plus de racines, et c'est sur les racines que se trouve le champignon. Donc, en décompactant le terrain, on va avoir donc un peu plus de production. Après, on est allé voir d'autres personnes qui taillaient les arbres.
Ouais.
Ça faisait bizarre, tailler un chêne, on trouvait ça pas forcément trop normal. Dans la nature, on ne taille pas les chênes.
Hein. Ouais.
Mais il avait un peu plus de production aussi. Après, on est allé voir d'autres personnes qui se sont mis, alors surtout dans le sud de la France, le sud-est de la France, où ils, déjà, il y a 15-20 ans, ils arrosaient déjà. Nous, on n'arrosait pas. Mais eux, ils arrosaient, ils en avaient besoin. Ils avaient des terrains beaucoup plus secs. Et donc, là aussi, en arrosant, on avait un peu plus de production. Et depuis les années 2010, ça c'est avec l'aide du CNRS de Montpellier, j'ai fait partie d'une équipe où on a travaillé énormément sur le réensemencement. C'est-à-dire que toutes les truffes qui sont impropres à la consommation, eh bien on va se resservir à la fin de la saison pour réintroduire ces truffes sur le terrain pour essayer de prolonger ou d'augmenter la production de truffes.
D'accord.
Donc, quand on décompacte, quand on taille, quand on arrose, quand on réensemence, on s'aperçoit qu'en 2000, la production moyenne d'un hectare de truffes en truffes nord du Périgord était environ de 1,5 kg à l'hectare.
Ouais.
Donc, c'est vraiment dérisoire. Ouais. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'à partir de la 10e année, on peut avoir une production qui tourne aux alentours des 10 kg à l'hectare.
Voilà. Tu as multiplié par 10 ?
Voire plus.
Ça a multiplié par 10 ?
Ça a multiplié par 10 et on a certains collègues qui sont arrivés à 25, 30, 40 kilos hectares.
D'accord, ok, voilà. Avec ces trois éléments que vous avez introduits.
Quatre éléments.
Quatre éléments, il y en a quatre. Ok, d'accord.
Voilà, quatre éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle la renaissance de la truffe en l'espace d'une vingtaine d'années.
D'accord.
Avec la recherche, avec l'aide des pépiniéristes, avec la remise en question de tous les trufficulteurs qui, on ne fait plus rien, mais il faut absolument agir sur nos truffières. C'est une culture à part entière. On fait partie de la culture locale. Et donc, en faisant ce travail-là, on obtient plus de truffes. Alors, c'est pas toujours pareil toutes les années, puisqu'on est aussi tributaire de la météo, comme toutes les cultures. Mais comme là, on est sous la terre, je sais que moi, sur mes truffières, pour cet hiver, j'ai de la truffe.
Ouais.
Mais combien j'en aurai, je suis incapable de le dire. Et personne n'est capable de le dire.
Ouais.
C'est une découverte à chaque fois. À chaque fois qu'on va sur
c'est
une
truffière... C'est un
enchantement ? Ah ben oui, je vais le dire. Mais on prend son pied quand on découvre... Toujours la dernière truffe, c'est toujours la plus belle. Qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, peu importe. Mais c'est toujours une découverte, parce qu'elle peut être à 5-6 cm de profondeur, elle peut être à 10, 15, 20 cm de profondeur, elle peut être petite ou grosse. Le chien, quand il la marque, lui, il ne fait pas de cas.
Ouais.
Il dit, tiens, là, tu en as une qui est mûre, à toi de la déterrer.
Ouais.
Donc nous, on fait le travail et on ne sait pas ce qu'on va découvrir.
Ouais.
Donc c'est toujours une surprise.
Un trésor.
Un trésor.
Ben voilà, la renaissance de la truffe, la renaissance d'un trésor, c'est ce que tu nous as un petit peu expliqué. Merci Bernard Rosa. On te retrouve très très vite pour une nouvelle bulle de truffe. Et les amis, ben je vous dis à très vite moi aussi dans un instant avec le top de la musique. Merci Bernard.
Merci à tous.
Allez, une bulle de truffe, ça c'est tous les jeudis, vous le savez les amis. Et vous pouvez encore consulter ces chroniques sur en podcast radiobulle.net. Allez, on se retrouve dans un instant.